Brunetti avait découvert que compter silencieusement jusqu'à quatre et recommencer aussitôt lui évitait de penser à autre chose. Cela ne l'empêchait pas de voir que le temps était paré de toutes les grâces du printemps. Il lui suffisait de regarder, au-dessus des têtes qui l'entouraient, la cime des cyprès sur un fond de ciel pommelé de nuages pour admirer un spectacle plaisant. Et il n'avait qu'à se tourner légèrement pour apercevoir au loin un mur de briques, au-delà duquel, savait-il, s'élevaient les dômes de San Marco. Comté était une sorte de contraction mentale, comme quand on rentre les épaules dans l'espoir qu'en réduisant la surface de son corps exposé au froid, on sentira moins celui-ci. Ainsi, en exposant moins son esprit à ce qui se passait devant lui, il pensait pouvoir diminuer la douleur. Paola, qui se tenait à sa droite, glissa son bras sous le sien, et ils se mirent à avancer d'un même pas. Son frère, Sergio, se tenait à sa gauche avec son épouse et deux de ses enfants. Raffi et Chiara marchaient derrière leurs parents. Il se tourna, jeta un coup d'œil à ses rejetons et leur adressa un sourire incertain qui se dissipa rapidement dans l'air matinal. Chiara lui rendit son sourire. Raffi baissa les yeux. Brunetti serra le bras de Paola. Elle avait glissé sa mèche rebelle derrière son oreille gauche. Elle portait les boucles d'oreilles en or et lapis lazuli qu'il lui avait offertes pour Noël 2 ans auparavant. Leur bleu était moins foncé que celui du manteau qu'elle portait. Bleu, et non pas noir. Quand avait-on cessé, se demanda-t-il, de porter du noir pour les enterrements? Il se rappelait celui de son grand-père, où tous les membres de la famille étaient vêtus de noir, en particulier les femmes, qui avaient l'air de pleureuses professionnelles lors de funérailles victoriennes, même si cela se passait bien avant qu'ils sachent quoi que ce soit des romans victoriens. Le frère aîné de son grand-père était alors encore en vie et avait accompagné le corbillard dans ce même cimetière, sous ces mêmes arbres, derrière un prêtre qui avait dû réciter les mêmes prières. Brunetti se souvenait que le vieil homme avait pris avec lui une motte de terre de sa ferme des environs de Dollo, disparue depuis longtemps sous le macadam de l'autoroute et les usines du secteur. Il n'avait pas oublié comment son grand-oncle avait sorti son mouchoir de sa poche, tandis qu'il se tenait silencieux devant la fosse ouverte dans laquelle on descendait le cercueil. Ni comment le vieillard, qui devait être alors largement nonagénaire, avait déplié le tissu, pris la petite motte de terre et l'avait laissé tomber sur le cercueil. Ce geste était resté l'un des souvenirs les plus mystérieux de sa jeunesse. Il n'avait jamais compris pourquoi son grand-oncle l'avait fait. D'ailleurs, personne dans sa famille n'avait pu le lui expliquer. Il se demandait maintenant, tandis qu'il se tenait là, si toute la scène n'avait pas été le fruit de l'imagination surmenée d'un enfant, réduit au silence par la vue de la plupart des gens qu'il connaissait enveloppés de noir, et par la confusion créée dans son esprit par sa mère qui avait tenté de lui expliquer ce qu'était la mort. Il n'avait que 6 ans. À présent, elle le savait, pensa-t-il. Ou pas.